Suite du déroulé du culte. Je fais un test, ça marche. Ça, c'est ma famille. Ça, je me suis présenté. Donc, je suis le mari, le remari de Johanna et papa de 4 enfants. C'était il y a 1 an, la photo. On est arrivé il y a 3 ans dans la région. La première année où j'étais là, Franck m'avait invité. Donc, je vous ai déjà plus ou moins rencontré. Et on vient du sud de la France à la base où j'étais pasteur chez les CAEF. Et on a accepté de venir ici pour que je puisse prendre la charge des premières années. Donc, mon rôle, c'est de prendre soin des premières années. Je donne quelques cours à l'Institut aussi et coordonne un petit peu les projets pendant l'année. Voilà pour notre... famille, maintenant j'aimerais commencer cette prédication et tout d'abord par cette image. Est-ce que vous connaissez cette émission de télévision? Ouais, ça s'appelle Patron Incognito, la version américaine Boss Undercover, avec le bon accent, désolé l'Église internationale. Et c'est une émission dont j'ai entendu parler pour la première fois en fait à la radio, à l'ancienne. Et c'était une émission qui parlait à la radio des patrons, de la relation des patrons et les salariés. Et moi, je voulais juste vous donner le principe de cette émission de télé. Je vous lis le pitch, le descriptif de cette émission, comme on le trouve sur Internet. Le patron d'une entreprise va redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise, incognito. Il va abandonner son statut de PDG et son confort de vie pour redevenir un simple apprenti dans sa propre entreprise. Pour passer incognito parmi ses employés, il va se métamorphoser et changer d'identité. Alors imaginez, ils lui mettent des prothèses, du maquillage, des perruques, il modifie un peu tout ça sous son apparence. Et puis, imaginez bien sûr des images qui, à la télévision et sur Internet, font le buzz d'un patron qui descend camouflé dans les bas-fonds de son entreprise. Et ce que l'on voit, c'est un mélange à la fois d'émotion de ces PDG qui descendent en bas de l'échelle et qui voient les durs travailleurs, et puis en même temps qui voient de moins durs travailleurs, et puis lui-même qui travaille de ses mains comme avant. Bref, un abaissement bien contrôlé, qui fait au passage la pub de l'entreprise et donne une image plus humaine du patron. Les chroniqueurs de radio révèlent cependant que quand les masques tombent à la fin de l'émission, quand on enlève les postiches, etc., les salariés reprennent tout de suite les codes. Ils vous voient, ils parlent autrement, etc. Vous voyez comment peut être habile les humains pour jouer au plus humble, jouer à celui qui s'abaisse. J'imagine que ce n'est pas le cas ici à l'EIG, et ce n'est pas le cas dans vos vies spirituelles. Jamais on fait ça. Ni dans nos services pour Dieu. Jamais on s'abaisserait ou on se rendrait humble pour l'image, pour bien passer. Ça serait hypo. Là, j'ai humilié la guitare, je suis désolé. Comme on dit chez nous, ça ira pas plus bas. Mais quand même. En tout cas, on arrive si facilement à jouer, à feindre l'humilité dans nos vies et notamment dans nos églises. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vous donne rendez-vous dans mon cœur pourri et vous verrez. Et puis à côté de ça, il y a cette petite dame à l'église où j'étais pasteur, avant d'être à l'IBG à Antibes, qui avant même que quiconque arrive à l'étude biblique du jeudi soir, elle est arrivée à 14h. Son mari l'a déposée parce qu'elle ne conduit pas. Elle ouvre l'église, se fait un café, étudie la Bible, puis démarre. Elle jette les poubelles, fait le tri dans les placards. Ce que les gens de ménage ne font pas dans l'église, elle le fait. Elle nettoie les endroits insoupçonnés de l'église, les toiles de araignée que personne n'a vues. Debout, à 4 pattes, elle arrose les plants dehors, elle enlève les mégots un par un que les passants ont mis dans le bac à fleurs devant l'église. Et puis à 20h30, incognito, elle est là, comme tout le monde, à l'étude biblique, faisant la bise à tout le monde, accueillant tout le monde. Et quand on lui dit « ça va », avant même qu'on ait fini le « ça va », elle te demande « comment tu vas, toi ? Comment va ta famille ? Comment vont tes enfants ?» Voilà un exemple de disciple incognito. Vraiment. Un disciple qui s'abaisse pour servir le roi des rois. Alors c'est l'enjeu de la prédication ce matin. Quand l'abaissement est signe de grandeur. On va le voir à travers un épisode de la vie du roi David dans nos Bibles. Un roi d'Israël dont la Bible nous révèle qu'il préfigure un plus grand roi qui sera issu de sa descendance, le roi Jésus. Nous verrons à travers le texte d'aujourd'hui que c'est finalement à l'abaissement d'un roi qu'on mesure sa vraie grandeur. C'est paradoxal, hein. Alors rendez-vous, si vous le pouvez, si vous avez vos Bibles, dans le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel dans l'Ancien Testament. Si vous avez ces mêmes Bibles-là, peut-être c'est votre cas, vous serez alors à la page 218, au tout début de vos Bibles, plus ou moins. Et je vais faire la lecture dans quelques instants. Vous dire que vous faites face à un livre, voire deux, puisqu'il y a un Samuel avant deux Samuel, mais dans la tradition juive, il ne s'agit que d'un seul et même livre qui retrace le début de la période des rois d'Israël, le peuple élu de Dieu. Imaginez-vous 1000 ans avant Jésus-Christ. Imaginez-vous être le peuple juif élu de Dieu. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je cite le livre des Juges qui est juste avant 1 Samuel. Et c'est comme ça que débute le livre de 1 Samuel. Un livre dans lequel le peuple réclame un roi. Et c'est OK dans la loi de Dieu. Si on retourne dans le Deutéronome, chapitre 17, on voit que Dieu avait prévu un cadre pour la royauté au sein de son peuple. Mais le souci, c'est que le peuple de Dieu, à ce moment-là, veut un roi, pas selon les critères de Dieu, selon ce que la loi disait, mais selon les critères de ce monde. Et à l'époque, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, ça voulait dire un roi au-dessus de toute tête. Alors, ils vont avoir Saül. Saül qui va être un roi au-dessus de toutes les têtes. Selon les critères de Dieu, non. Selon les critères de ce monde, oui. Alors un roi qui va désobéir à Dieu, qui va entraîner le peuple à sa chute, qui va conduire à rejeter Dieu. Et finalement, Dieu va le rejeter et va se choisir un autre roi selon ses critères à lui, finalement. Ce roi-là, ce sera David. On l'apprend pendant au premier livre de Samuel, le berger. Celui que l'on retrouve, comme je disais en introduction, dans la généalogie de Jésus. Regardez dans l'évangile de Matthieu. 1-2, Samuel retrace alors, j'espère que je vous donnerai envie de relire ce livre cette semaine, mais 1-2, Samuel va retracer les destins croisés de ces deux rois, Saül et David, avec les hauts, les bas, avec les jalousies de l'un envers l'autre. Finalement, la chute de Saül, fin de 1 Samuel, il va décéder, et puis les lamentations de David, qui était attaché à lui. Et là, on pourrait se dire, c'est le retour à la case départ. Plus roi, plus droit, plus rien. Mais le début de 2 Samuel nous montre que celui que Dieu a choisi dans 1 Samuel va devenir roi. D'abord, chapitre 2 de Juda, puis d'Israël, chapitre 5. Et 2 Samuel 5 nous dit que David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Le livre de 2 Samuel, c'est le renouveau, une royauté selon le cœur de Dieu, et plus que ça, le retour du règne de Dieu au sein de son peuple. Le retour du règne de Dieu au sein de son peuple, caractérisé par deux choses, le fait que David va reprendre Jérusalem, la ville sainte, qui était plus dans leurs mains, et puis une deuxième chose qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le retour du coffre de l'Alliance au cœur du peuple à Jérusalem. Et ça, c'est fort, même si on parle d'un coffret de 1,25 m sur 0,75 cm, mais pourtant, qui est représenté, nous dit un commentateur, le rétablissement matériel et formel de la relation entre Dieu et son peuple. Voilà où nous en sommes. Vous êtes avec moi? Alors on s'apprête à rentrer dans Jérusalem, on s'apprête, cotillon en main, à accueillir ce coffre qui veut dire le règne de Dieu revient là où il doit être, au sein de son peuple, de manière glorieuse. On y est? Vous êtes avec moi? Mais on a quelques kilomètres encore jusqu'au cœur de Jérusalem. On démarre la lecture au chapitre 6, si vous le voulez bien. Nous sommes aux environs de Jérusalem. Et je vais faire la lecture. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait 30 000 hommes. Puis avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle, entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. Et c'était Uzza et Akjo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois, de cyprès, de l'harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nacon, Uzza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que les bœufs la faisaient pencher. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uzza. Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Pérèt Uzza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là. Et il se dit, mais comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle rentrer chez moi ? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui dans la ville de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath et l'Éternel la bénit, ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi d'Israël, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis sa maison, la maison d'Obed-Edom, jusqu'à la ville de David au milieu de réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Et David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Et il était habillé d'un éphod de lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes, confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et tout le peuple repartit chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël. Il s'est dénudé aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur ce peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ainsi s'achève le chapitre 6. Intense, hein ? Je vous propose 3 arrêts ensemble. En suivant le cours de ce texte, que je vous invite à méditer encore cette semaine. 3 arrêts ensemble à la suite d'un roi dont la grandeur, vous l'avez peut-être déjà noté, se caractérise ici par sa petitesse. Et j'espère pouvoir ensemble glaner l'un ou l'autre principe clé pour nous encourager dans nos vies, notamment dans nos vies de croyants, d'adorateurs du Dieu vivant. 3 arrêts. Et le premier se joue dans les 12 premiers versets. C'est pour ça que j'ai appelé ça une gloire intouchable. Je crois que dans les 12 premiers versets, l'enjeu est que nous saisissions la portée de la gloire de Dieu. Un jour, un sage homme très âgé m'a dit, David, la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Je n'en veux aucune miette. Ces premiers versets nous montrent ce qu'il se passe quand on joue avec la gloire de Dieu. Et ici, je confondrai gloire de Dieu avec l'arche de Dieu ou arche de l'Alliance, à laquelle, verset 2, est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. On parle d'un coffre de bois dont je vous ai déjà donné les dimensions, en bois d'acacia, avec un couvert d'or. Et si vous voulez plus de détails, je vous renvoie au livre de l'Exode, au tout début de la Bible, chapitre 25. Vous y verrez sa fabrication, les dimensions et surtout les modalités de portage. On y reviendra. Il était gardé par les Lévites, les responsables du culte, les garants du déroulement du culte à Dieu, déposé dans la tente de la rencontre, et y représentait la présence de Dieu. Pourquoi ce petit coffre représentait la parole de Dieu ? Enfin, la présence de Dieu. Eh bien, le premier élément, je viens de le dire, puisqu'en son sein, il y avait la parole de Dieu. Il y avait dedans les deux tables de la loi, le contrat de l'alliance entre Dieu et son peuple. Premier élément qui nous montre qu'il s'agissait là de la présence de Dieu qui était représentée. Et surtout, un autre élément, le couvercle qui était en or au-dessus était appelé le propitiatoire. C'est là, nous dit le texte, où Dieu rencontrait son peuple, entouré de deux chérubins, comme on voit sur l'image. Et on l'aspergeait de sang 7 fois pour les cérémonies cultuelles d'expiation. Lévitique 16, le jour des expiations. Je vous lis un extrait. « C'est ainsi qu'il, Aaron, fera, le prêtre, l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. » En gros, le coffre, c'était l'endroit où le sang d'une victime innocente, un animal, était versé pour le pardon des péchés du peuple. Le coffre pour purifier le peuple pécheur. Et alors, le regard de Dieu changeait à l'égard du peuple. C'est ça qu'on appelle l'expiation. Et le regard de Dieu, et surtout sa colère envers l'humanité pécheresse, était détourné. C'est ce qu'on appelle la propitiation. Le coffre, c'est donc la présence de Dieu, vous vous rappelez la parole de Dieu en son sein, et le rappel du pardon de Dieu pour son peuple. Tout ce qui manifeste la grandeur de Dieu. Tout ce que aujourd'hui représente le Christ et son œuvre. D'où l'utilité de ce coffre désormais pour nous autres chrétiens. Le Christ a été celui qui a changé le regard de Dieu sur nous. Le Christ est celui qui a pris la colère de Dieu, une colère juste envers un peuple rebelle, pécheur, souillé, qui ne peut rien faire face à la gloire de Dieu. Le Christ est celui qui a pris la colère de Dieu de plein fouet. Il est l'ultime victime innocente par excellence. Alors pour en revenir au coffre, alors que pendant un temps il était dans la présence du peuple, ce coffre était même dans l'histoire d'Israël, quand on relit l'Ancien Testament, il était à la tête du peuple, il les guidait dans le désert, c'était le centre au cœur de leur culte, c'était utilisé même pendant leur bataille. Eh bien, on apprend dans 1 Samuel qu'il a fini dans les mains des païens, des ennemis du peuple d'Israël. Bon, il y est resté que 7 mois, parce que pas touché à la gloire de Dieu, et certainement pas des païens, ennemis de Dieu. Dieu va semer la terreur chez les Philistins qui détenaient l'arche, et l'arche va revenir au sein du peuple, on apprend ça dans 1 Samuel, mais le problème c'est que même s'il est auprès du peuple d'Israël, ils ne vont pas suivre les ordonnances par rapport à cette arche, et 50 000 Hébreux vont être décimés parce qu'ils n'ont pas suivi les ordonnances sur cette arche. Et alors, ce coffre va rester 20 ans sur la colline chez Aminadab, dont on retrouve le nom dans cette première partie. 20 ans, un coffre isolé, 20 ans où on lit dans l'histoire d'Israël que le peuple erre. Il se mélange aux populations, ils font des mariages mixtes, ils s'adonnent à l'idolâtrie. 20 ans d'errance, 20 ans d'isolement. Mais nous y voilà, chapitre 6, et c'est pour vous montrer. On fait un petit peu, on parcourt très rapidement cette histoire du coffre, mais c'est pour vous montrer que nous sommes à un moment fatidique. Et David ne fait pas les choses à moitié. 30 000 hommes, vous avez vu le début du texte. Et ils sont là, verset 3, chez Aminadab. Ça semble bien parti, des percussions, tout ce qu'il faut, une orchestration fabuleuse, verset 5. Un char flambe en neuf, nous dit le texte, des bœufs, sans doute pure race charolaise, qui sont là prévus à cet effet. Et puis les deux fistons d'Abinadab qui étaient aussi investis dans le culte, un devant sur le côté. Et là, verset 6, catastrophe. Le bœuf fait pencher l'arche et Uzza, le fils d'Abinadab, qui essaye de rattraper l'arche et il est foudroyé, littéralement, par la colère de Dieu, exterminé. C'est troublant, hein ? Mais pas touche à la gloire de Dieu. Certainement pas une main humaine déchu. Personne ne peut toucher la gloire de Dieu comme ça et en sortir indemne. Personne ne peut jouer avec la gloire de Dieu et en sortir indemne. Alors on a de quoi être troublé avec David, qu'il l'est, verset 8, David fut troublé de ce que l'Éternel a infligé à Uzza. Le boss, David, le king, il avait tout prévu. Tout était ficelé dans le protocole, solide, pour finir troublé. Alors que pouvons-nous retirer de cette première partie du texte ? Quelques éléments. Premièrement, pas touche à la gloire de Dieu. Comme si Dieu proposait ici une masterclass à David. Rappelle-toi, David. Ok, tu es un roi selon mon cœur. C'est moi qui t'ai choisi. Et en plus, tu réponds aux critères d'un roi selon mon cœur. Oui, nous sommes dans une relation d'intimité, toi et moi. Mais tu dois reconnaître ma sainteté. Tu dois te rappeler qui je suis. Que si tu es le roi, il est un roi des rois au-dessus. Ça nous calme. Nous autres aussi, je crois, au XXIe siècle, ça aurait de quoi nous avertir. Toutes ces fois où on essaye de tirer la couverture, nous aussi. Ah, j'ai emmené cette personne à l'église. C'est moi qui l'ai converti, Franck. Et puis j'ai fait ça. Et j'ai fait ça aussi dans l'église. Et ça c'est de moi. Ça aussi, c'est moi. Autant de moi et très peu de lui. Et on sait couvrir ça d'un beau vernis protestant évangélique en rajoutant des « car Dieu le veut » et « je l'ai fait pour sa gloire » et blablabla. Alors qu'au fond, derrière, bien souvent, nous essayons d'attirer notre gloire. Nous voulons que notre gloire soit mise en valeur, que nos services, que mon ministère soit mis en valeur. Si puissant. On est tellement puissant pour servir Dieu. À l'image de David et ses 30 000 hommes, ses harpes, ses chars flambant neufs, etc. Deuxième chose à garder de cette première partie, soumets-toi aux prescriptions de Dieu. Au premier regard, on se dit, mais ce pauvre Uzza, il a juste voulu rendre service. Il y a un truc qui tombe, je le ramasse. Sauf que ce n'est pas n'importe quoi qui tombe. Je vous ai rappelé ce que représentait l'arche, la gloire de Dieu. Mais surtout, si on en revient, et je vous ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure à Exode 25, où on voit les modalités de portage de cette arche, je ne crois pas qu'il soit question, et vous vérifierez cette semaine, hein, vérifiez tout ce que je vous dis, mais je ne crois pas qu'il est question de chars flambant neufs, de bœufs magnifiques, etc. C'est tout autre chose. Je vous lis quand même une citation, allez. Exode 25, verset 12. « Tu fondras pour cette arche quatre anneaux en or et tu les mettras aux quatre coins, deux d'un côté et deux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux et sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirées. » Si on regarde bien maintenant le texte avec ça en tête, où se trouvait Uzza et son frère? Où se trouvait ce coffre? Ils n'étaient pas à leur place, personne n'était à leur place. En fait, il aurait fallu, pour bien faire, quatre personnes aux quatre coins, suivant les prescriptions, portant eux-mêmes les barres et le coffre. Et là encore, tant de fois, nous avons, nous aussi, de belles intentions pour servir Dieu. Et même on a de meilleures techniques que ce que la Bible nous dit, ou même ce que notre pasteur nous dit, ou les anciens, ils sont bien gentils, hein, les anciens et Franck. Mais bon, là, leur méthode, ça allait pour un temps. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour l'Église. Tant de fois où nous pensons mieux savoir que Dieu ou que les autorités qu'il a placées dans son Église. Tant de fois que nous nous mettons même au-dessus des prescriptions de la parole de Dieu en ce qui concerne son Église, son service. Mais malheureusement, quand on fait cela, c'est le risque de plagier la parole de Dieu et de ne pas franchement le faire aussi bien qu'elle. Troisième élément, en fait, une invitation ce matin à se laisser bénir, puisqu'il y a des bénédictions en réserve pour ceux qui se soumettent aux prescriptions, pour ceux qui respectent et qui craignent Dieu. Il y a des bénédictions, et c'est ce que va expérimenter ce fameux Obed-Edom dans les versets 10 à 13, chez qui le coffre va finir pendant juste 3 mois. Il va assurer l'intérim. Et Dieu montre là à David que c'est aussi des bénédictions pour ceux qui accueillent sa présence de la bonne manière. Comme si, après cet élément troublant, Dieu voulait dire à David, rappelle-toi, il y a des bénédictions. Crains-moi plus que toute autre chose. Mais laisse-toi aussi te laisser bénir par moi. Un bon appel pour nous autres aussi de se dire qu'il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Il y a un Dieu qui est à craindre. Il y a un Dieu qui est plein de compassion. Et en fait, c'est le même Dieu. Et c'est rassurant. Parce qu'il a tout prévu pour nous dans sa parole. Pourquoi essayer de la contourner? Pourquoi essayer de dévier? Pourquoi prendre des raccourcis? Laisse-toi bénir par ses prescriptions, par sa personne. Et puis, j'avance sur la suite au verset 12. Rewind, on recommence. On recommence le déplacement de cette arche. Avec en tête, j'ai l'impression davantage dans les versets qui suivent, la crainte de Dieu et de la joie de savoir qu'on sera béni. Verset 12, on voit qu'il y a ces deux ingrédients, qui sont d'ailleurs des ingrédients indispensables pour vivre chaque culte, chaque moment avec Dieu dans nos vies. Et ici, finies les méthodes humaines, il me semble, David reprend le protocole de Dieu, sans doute fini les chars tout neufs, les bœufs, etc. Et place au Lévite, toujours, place à l'adoration, au sacrifice. Et voyez, dès le début, David marque le coup. Sipa, que fait-il ? Sacrifice. En fait, il démarre un culte, là. Ils n'attendent pas le dimanche, quoi. Il démarre un culte avec des sacrifices, et pas n'importe quel sacrifice. Si bien que le roi revêt, verset 14, ici une tenue de grand prêtre. Il est précisé qu'il a les fautes de lin. Le roi a maintenant la tenue de grand prêtre. Et puis on le voit danser et sauter. C'est pas non plus anodin. C'est pas juste pour le folklore. Danser, sauter, à la manière de certains prophètes de l'Ancien Testament. Le roi revêt la tenue de grand prêtre, danse et saute à la manière de prophètes de l'Ancien Testament. Et vous sentez la ferveur désormais. Que fait le peuple ? Il crie. Ça vous arrive de crier ici pendant vos cultes, Franck ? Mais là, il crie. Et là encore, ce n'est pas anodin. Le cri dans l'Ancien Testament, c'est quoi ? C'est pas juste pour la finale de la Champions League. Le cri dans l'Ancien Testament est associé au zèle. Il est associé au combat. Il est associé à la juste adoration d'un peuple qui se consacre et qui se réjouit de sa mission d'adorateur. Une ferveur qui se traduit par plus d'adoration et de reconnaissance. Et verset 17, effectivement, on a la mention de ce sacrifice sous la tente. Là encore, on voit le zèle. Et je vous ai dit, pas n'importe quel sacrifice. Il est question d'holocauste. Peut-être ça vous parle pas, de quoi on parle avec holocauste. Eh bien, c'était les sacrifices qui mettaient en avant le propitiatoire dans le coffre. Le Seigneur nous est propice, son regard est sur nous, malgré nos fautes, rappelez-vous. Et c'est ça dont on parle avec les holocaustes. Et puis des sacrifices de communion, nous dit le texte. Et là, dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices de communion pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, pour sa bonté, pour sa fidélité dans ce qu'on vient de traverser. Il est là, il est toujours là. Et d'ailleurs, c'est un sacrifice de communion que la petite Anne, avec qui démarre 1 Samuel, c'est par ce sacrifice-là que 1 Samuel démarre aussi. Et puis le tout est accompagné d'une bonne agape, finger food ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui était accompagné de sacrifice de communion. Tout le peuple, ensemble, reconnaît que Dieu a détourné son regard, a pris la colère, et qu'il va nous bénir, et qu'il l'a déjà fait. Et là, David, qui poursuit son rôle de prêtre, et les prêtres, à l'époque, nourrissaient, après ces sacrifices de communion, le peuple, et c'est ce que fait David. C'est lui qui distribue au peuple les rations dont il est question, verset 19. Alors, de quoi être encouragés, nous autres aussi, à peut-être réinvestir notre vision de l'adoration à l'Église. Se dire que l'adoration, c'est pas juste le dimanche, mais c'est peut-être tous les six pas que vous faites demain au travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se rappeler que vous avez le souffle de Dieu en vous, que vous êtes des adorateurs du Dieu vivant, pas juste ici au Crown Plaza, mais à la machine à café, avec votre club de retraités, avec vos voisins. Vous êtes des adorateurs qui représentent le Dieu vivant que vous craignez, que vous avez la joie et la ferveur de servir et de louer. Ça doit influencer notre mode de vie. Et puis un encouragement aussi, via cette partie du texte, je trouve, à renouveler notre façon de louer Dieu. Vous voyez comme David casse les codes ici. Ça lui vaut un certain mépris dont on reparlera. Des danses, des cris, un bon repas, des sacrifices en tout genre. Et si nous repensions, nous aussi, sans tout déstructurer et tout déconstruire, mais si nous repensions notre vision de l'adoration et de notre part à cette adoration. Et ça ne veut pas dire adorer Dieu, être forcément sur scène dans l'équipe louange, d'accord ? Parce que parfois, j'ai cette impression quand on cherche une nouvelle église, par exemple, on a pour critère mon service dans cette église? Est-ce que mes dons seront nécessaires? Ah, j'ai pas l'impression que mes dons seront utilisés à leur grande capacité, il y a tout ce qu'il faut, donc je ne vais pas dans cette église. Mais comme je dis chaque année aux étudiants, qui finalement vous rejoignent que pour quelques mois dans une église qu'ils vont chercher dans la région, je leur dis, tu sais, tu ne pourras peut-être pas beaucoup t'investir dans l'église. Peut-être tu ne connaîtras pas tout le monde, peut-être tu n'auras pas ta tête dans l'organigramme de l'église et sur le site internet. Mais si déjà tu arrives à l'heure au culte, si déjà même tu arrives quelques minutes avant pour profiter de la communion, si même tu arrives à chanter en vivant à l'intérieur les paroles que tu confesses, si tu arrives à avoir l'oreille attentive au message qui sera donné, et pourquoi pas même être prêt à écouter et, si Dieu le permet, ouvrir la bouche à la fin du culte pour encourager l'un ou l'autre, alors ce sera déjà pas mal, franchement. Ce sera un culte raisonnable, déjà grandiose. Depuis que mon fils aîné arrive à lire, ça me réjouit de le voir par moments participer avec nous à la lecture des chants, à arriver à lire sur le grand projecteur quand il peut bien déchiffrer le texte. Je connais sa ferveur pour Dieu et son cheminement avec Dieu, mais je suis ému quand je le vois chanter de tout son cœur les paroles qu'il décrypte et qu'il découvre. Je suis ému par mon deuxième fils qui ne sait pas encore lire, qui commence un tout petit peu, mais qui me regarde et qui répète les paroles après moi, donc il chante le chant avec un petit décalage. Mais je suis ému de le voir essayer de suivre et de participer. Et quand je les regarde et que je me rappelle que Jésus a dit qu'on doit être comme eux, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas à travers ces enfants de quoi revoir notre façon de louer Dieu, avec des cœurs peut-être plus sincères, simples. Et pourquoi pas même créatifs. Ces mêmes enfants qui parfois, sur un champ, bougent un peu plus que nous, dansent. Et enfin, je ne peux pas m'empêcher, dans ce texte, de nouveau, de faire un parallèle avec celui qui reflète David, ce plus grand roi. J'ai essayé de le marquer avec vous à travers cette partie, mais nous voyons ici David qui embrasse trois offices. Il est roi, ça on le sait depuis de Samuel le début. Mais ici, il revêt les fautes de l'un, il est aussi ce prêtre. Et enfin, ce prophète qui accompagne le culte, les sacrifices et qui répartit les rations. Finalement, il préfigure déjà et nous renvoie déjà vers celui à qui on va aussi associer ces trois offices. La lettre aux Hébreux qu'on a déjà lue tout à l'heure, elle nous dit la chose suivante, chapitre 2, au sujet de Jésus. Il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du monde, du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le Christ, on l'a déjà vu, est celui qui remplace ce coffre, qui a pris sur lui la colère de Dieu. C'est ce qui se passe à la croix. C'est un événement cosmique et pas juste historique. Il prend tes fautes, tout le mal avec lequel tu es né. Il le prend, pourquoi ? Pour que tu sois vu devant Dieu, comme juste, vrai, pur. Il embrasse toutes les offices, et on le voit dans le Nouveau Testament. Il est ce roi tant attendu, qui est parfait, à l'inverse de David, qui lui aussi aura eu ses chutes, etc. Il accomplit pleinement ce que David a déjà préfiguré dans ce texte-là. Et il sera l'ultime holocauste, l'ultime sacrifice de communion qui nous permet d'être en relation avec le Créateur. Et c'est celui-là que nous voulons louer chaque dimanche. Et enfin, on termine avec ça, avec la dernière partie du texte. On l'a vu déjà dès le verset 16, il y a le mépris de l'épouse de David, c'est elle dont on parle au verset 16, qui, à travers la fenêtre, le regarde et méprise son mari alors qu'il sert l'Éternel. Et je crois qu'on arrive là au cœur du message de ce matin, quand c'est à l'abaissement d'un roi qu'on mesure sa grandeur. Dernière partie, voyez le contraste entre David, il vient de vivre une expérience extraordinaire, troublante d'abord, puis ensuite pleine de joie. Imaginez, je vous le rappelle quand même, ils ont repris Jérusalem, la présence de Dieu est de nouveau à Jérusalem, tout le monde est là, il y a de la joie, verset 20, de la communion. Et puis là, il est même évoqué que c'est une bénédiction à partager dans les familles. Ah, à la fin de ce culte, David renvoie tout le monde, allez, bénissez vos familles, allez-y. Et puis lui, il rentre à la maison, on l'imagine. Et là, le contraste. Il retourne chez lui, lui aussi pour bénir sa famille. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël, il s'est dénudé, etc. Et elle nous est présentée ici, pas comme la femme de David. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sous l'angle de fille de Saül. Et je crois que l'auteur ne laisse rien au hasard. Qu'est-ce que voit Michal ? Alors qu'on vient de vivre un événement extraordinaire, elle voit juste la tenue de David, sa chemise, hein, qui s'est un peu décolletée quand il dansait et qui sautait. Comme si à la fin de la prédication, Johanna venait me dire, ah ouais, c'était, enfin, même pas elle me donne des éléments sur ma prédication, mais juste elle me parle, de, je sais pas moi, les manches relevées, ah, c'était pas approprié à l'EIG, ça se fait pas. Vous voyez le contraste ? Voilà ce qui compte pour Michal, le déshonneur de l'apparence du roi. Quelque part, elle a eu comme exemple un père qui dépasse toutes les têtes, Saül. Celui qui était un homme, un vrai. Mais plus que ça, elle a accepté de se marier avec celui qui n'a pas frappé les 10 000. Les 1 000, pardon, mais les 10 000. C'est comme ça qu'était présenté David au début d'un Samuel. Et il n'a pas ramené 100 prépuces pour... comme commandé par Saül, mais 200. David, on le voit dans 1 Samuel comme un leader viril, un leader puissant et pas un pauvre danseur qui s'ajoute avec le peuple. Peut-être avait-elle épousé un homme qu'elle pensait comme son père, puissant, avec les critères de ce monde. Mais de toute façon, les débuts de leur mariage est bancal, puisque ce n'était pas la femme qui était réservée à David. Saül lui a fait un petit coup de travers. Mais vous voyez ici, les cendres de Saül persistent. D'un roi selon les critères de ce monde, après la joie, la crainte, l'auteur veut mettre l'appui ici sur l'abaissement du roi selon le cœur de Dieu, l'humilité, l'humiliation. Et je crois que ça a de quoi déranger toutes nos visions mondaines si nous sommes comme Michal, persuadés qu'un pasteur, qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui appuie de manière écrasante son leadership, son autorité, y compris dans l'Église. Et je me rappelle une période de ma vie où ma compréhension de responsabilité dans l'Église, c'était plutôt comment je vais orchestrer ce groupe pour qu'il serve mes intérêts et ma mission spirituelle, bien sûr. Ça, c'était une vision que je pouvais avoir pendant un temps. Dieu l'a réformée, je m'en suis repenti. Et j'ai compris que la vision des responsabilités dans la Bible est la suivante. Je vais juste paraphraser Jésus en Matthieu 20. Ce n'est pas celui qui est venu pour être servi, mais celui qui vient servir. Point barre. Un leader s'abaisse à l'image de David et David veut nous orienter vers ça à la fin du texte, qu'il préfère s'abaisser devant l'Éternel, s'il faut paraître ridicule pour certains comme elle. Et même, je peux paraître encore plus petit s'il le faut et m'abaisser encore plus à mes propres yeux s'il le faut. Bon, il lui rappelle au passage, verset 21, que c'est lui qui l'a choisi plutôt que son père. Voilà, quand même, il faut rappeler les choses et remettre les choses dans l'ordre. Mais à l'inverse de Saül qui poursuivait ses ambitions, ce que David a compris dans cet épisode du chapitre 6, c'est que un roi, selon le cœur de Dieu, c'est un roi qui s'humilie. Et encore plus s'il le faut pour que le roi des rois resplendisse davantage. Alors que nous puissions être encouragés à réformer à nos visions de l'évangile, du service chrétien, du leadership pour ceux qui sont responsables. Et on veut penser particulièrement dans la prière aux anciens de votre église, aux stagiaires même, qui prennent des responsabilités et d'autres. Et puis voyez le destin funeste de Micha qui finalement, le texte finit avec ça, sera maudite. Destin funeste pour ceux qui proclament un évangile de la grandeur, pour ceux qui proclament un évangile de la performance, pour ceux qui proclament un évangile de la gloire personnelle. Destin funeste. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et de nouveau, comment David, avec cette fin d'épisode, nous préfigure vraiment et nous renvoie vraiment vers ce roi qui est arrivé des années après Jésus. Eh bien, je vous renvoie à la lettre aux Philippiens, selon Paul, qui nous montre si bien comment le Christ est celui qui accomplit pleinement ce que David nous a montré aujourd'hui. Philippiens, chapitre 2, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais qu'on finisse par un temps de prière silencieuse face à ce texte, face à ces rappels, ces ingrédients que nous avons vus tout le long de la prédication, crainte de l'Éternel, joie de l'adorer, abaissement dans notre adoration et notre service, critères d'une vie chrétienne normale quand on lit l'Écriture, pas juste critères pour nos leaders et nos responsables dans l'Église, bien qu'ils doivent y être attentifs particulièrement. Soyons encouragés à les vivre, soyons encouragés à encourager les autres à les vivre, non pas dans la culpabilité, mais en priant pour eux, en leur montrant la voie. Prions pour voir cela comme programme, comme valeur dans nos groupes de maison, de quartier, dans nos foyers, dans nos couples, au boulot. Et me venait sans cesse cette parole de Jean-Baptiste quand je préparais cette prédication. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Prions pour ce programme à poursuivre. On a tant besoin des prières les uns des autres à ce sujet. Mais prenons déjà le temps, seul devant Dieu, face à ce texte, face à ce que l'on a partagé. Et pendant ce temps, je vais demander aux étudiants de s'installer. Et à la fin de ce temps de silence, nous pourrons poursuivre avec ce chant qui nous rappelle la grâce d'un Dieu plus grand, les grâces d'un Dieu plus grand. Ces grâces se renouvellent, malgré notre imperfection, malgré notre incapacité à suivre le Christ. Ces grâces se renouvellent. Prenons un temps de silence.